VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 15 avril 2022. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En visite en Côte d'Ivoire, le président togolais Fornia Singbe a déclaré que la lutte contre le terrorisme doit être menée avec tous les pays concernés. En Afrique du Sud, nouveau bilan de près de 400 morts dans les inondations. Les recherches se poursuivent. Au Zimbabwe, 35 personnes ont été tuées, 71 blessées dans un accident de bus surchargé. Après le naufrage de son vaisseau amiral en mer Noire, la Russie détruit une usine de missiles près de Kiev. Après le journal, ce sera la Minute Éco et les sports. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a reçu son homologue togolais Fornia Singbe hier. Les deux dirigeants ont discuté de questions sécuritaires et de la situation politique dans les pays de transition comme le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Les détails avec Delphine Bowies, notre correspondante à Abidjan.
Après son tête-à-tête hier à Abidjan avec le président Alassane Ouattara, le président togolais Fornia Singbe a indiqué devant la presse que la lutte contre le terrorisme n'est pas l'affaire d'un seul pays.
La lutte contre le terrorisme ne peut plus être vue comme un problème ou du Mali ou du Burkina ou même du Niger, mais ça devient un problème sous-régional, un problème de la CEDEAO. Je pense que nous devons tout faire pour éviter l'impasse d'un côté comme de l'autre et il faut continuer à se concerter entre nos chefs d'État, mais également avec les autorités de transition. Et nous sommes obligés de travailler, de discuter avec ceux qui sont aux commandes en ce moment, mais en ayant à l'esprit que ce qui est important, c'est la paix, c'est la sécurité.
Il a terminé avec ce bout de phrase laconique, mais qui en dit long. Notre agenda est essentiellement un agenda économique. Les perturbations que nous connaissons, nous voulons que ça soit une parenthèse. Tôt, nous trouverons des solutions idoines et mieux, ça sera pour nous. Delphine Bowies. Abidjan, VOA, Afrique.
Au Niger, le Parlement va débattre dans les jours à venir de la présence des forces étrangères engagées dans la lutte contre les djihadistes, perçues comme des forces d'occupation par des ONG locales, a annoncé le gouvernement. Ce quitus du Parlement permettra de mettre fin au débat, a estimé le ministre des Affaires étrangères, Assoumi Massoudou, lors d'une conférence de presse hier avec son homologue allemande, Annalena Baerbock. Monsieur Massoudou a dit que son pays souhaitait un accroissement de l'intervention de ses partenaires pour contrer les terroristes. Le département d'État américain a approuvé une importante vente d'hélicoptères d'attaque au Nigeria pour près $1 milliard. La vente de 12 hélicoptères d'attaque américains Viper et d'équipements militaires associés dont des systèmes de guidage et de vision nocturne ainsi qu'un soutien à la formation est estimé à $997 millions. Au Burkina Faso, le CDP de l'ex-président Blaise Compaoré, condamné par contumace à perpétuité pour l'assassinat de Thomas Sankara, a appelé à une réconciliation nationale pour consolider le vivre ensemble et poursuivre la lutte pour le développement. Lors d'une conférence de presse à Ouagadougou, le président du parti, Eddy Kamboigo, a jugé regrettable que des avocats de la partie civile s'arrogent le droit d'interdire sous menace le président et l'Assemblée législative de transition, d'accorder la grâce présidentielle ou de voter une loi d'amnistie, a-t-il dit. 4 employés centrafricains d'Action contre la faim ont été blessés ainsi qu'un fonctionnaire local dans l'attaque de leur véhicule dans le sud de la Centrafrique, a annoncé l'ONG. L'assaut s'est produit le 7 avril dans la préfecture de la Basse-Kotto, une zone où s'affrontent le groupe rebelle UPC et l'armée soutenue par des paramilitaires russes. En Afrique du Sud, le nouveau bilan des inondations sur la côte Est s'élève à près de 400 morts et plus de 40 000 sinistrés. Le président Cyril Ramaphosa s'est de nouveau exprimé sur la catastrophe ce vendredi. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
La plupart des victimes ont été enregistrées dans la région de Durban, ville portuaire du KwaZulu-Natal, où de fortes pluies sont tombées depuis le week-end dernier. Les intempéries ont aussi affecté les provinces voisines du Free State dans le centre et de l'Eastern Cape dans le sud-est, où un décès a déjà été signalé, a indiqué M. Ramaphosa, lors d'un déplacement aujourd'hui dans le Mpulamanga à l'occasion des fêtes de Pâques. Les pluies diluviennes qui ont atteint des niveaux jamais connus depuis plus de 60 ans ont gravement endommagé les infrastructures. Notre pays fait face à des défis énormes, a fait savoir le chef de l'État sud-africain. Alors que nous pensions sortir de l'état de catastrophe, une autre catastrophe naturelle, cette fois, s'est abattue sur notre pays, a souligné M. Ramaphosa. Il a déclaré mercredi l'état de catastrophe dans la province du KwaZulu-Natal et avait avoué avoir traversé un des moments les plus tristes de son mandat en rencontrant une famille qui a perdu 10 membres dans les intempéries, dont de jeunes enfants.
Au Zimbabwe, au moins 35 personnes ont été tuées et 71 blessées dans un accident de bus à destination de Chipeng, dans le sud-est du pays. Claire Morin-Gibourg pour les détails.
Le bus était surchargé, selon le porte-parole de la police, le commissaire adjoint Paul Niati, qui précise que pour l'instant, le bilan est de 35 morts et 71 blessés. Il ajoute que l'accident s'est produit la nuit. Le car transportait des fidèles de l'église chrétienne de Sion qui se rendaient à un rassemblement religieux pour le week-end de Pâques. Le véhicule est sorti de la route et a plongé dans un ravin. Joshua Sako, un avocat de la région où l'accident s'est déroulé entre Chimimani-Mani et Masvingo dans le sud-est du pays, s'est rendu sur les lieux du drame. Il a affirmé que le bus a fait plusieurs tonneaux et que le toit était arraché. Les accidents de la route sont fréquents au Zimbabwe en raison du mauvais état des routes. L'église chrétienne de Sion, évangélique, est populaire dans la région. Un pèlerinage en Afrique du Sud voisine réunit chaque année ses fidèles au plus grand rassemblement de chrétiens en Afrique australe.
En Tunisie, une journaliste placée en détention hier pour avoir critiqué le ministère de l'Intérieur a été remise en liberté ce vendredi, indiquait son avocat. Shahrazad Akasha reste sous le coup de poursuites judiciaires, a précisé maître Samir Dilou. Sa détention a été dénoncée par le syndicat national des journalistes tunisiens, y voyant un nouveau signe de recul de la liberté d'expression.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie promet d'intensifier ses frappes sur Kiev au lendemain du naufrage de son vaisseau amiral en mer Noire. Plus de 5 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Jacques Aristide nous en dit plus.
Les femmes et les enfants représentent 90% des Ukrainiens qui sont partis, d'après le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Les hommes âgés de 18 à 60 ans ont été appelés à rester pour défendre leur pays. Sur le terrain, la Russie affirme qu'elle va davantage frapper la capitale ukrainienne pour répondre aux attaques qu'elle qualifie de terroristes menées sur son territoire par l'Ukraine, ce que nie Kiev. Le Kremlin indique avoir détruit en banlieue de la capitale ukrainienne le fabricant des missiles Neptune, avec lesquels les Ukrainiens affirment avoir coulé le navire amiral Moskva de la flotte russe. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, son pays a montré que les navires russes ne peuvent qu'aller au fond. En outre, Moscou met en garde contre une adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande qui aurait des conséquences pour ces pays et la sécurité européenne. Helsinki et Stockholm envisagent de rejoindre l'Alliance Atlantique en réaction à la guerre en Ukraine. Pour sa part, le Parlement ukrainien a voté une résolution hier qualifiant l'offensive russe de génocide.
Plus d'une centaine de blessés à Jérusalem dans des affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées ce vendredi. 153 blessés ont été transférés dans des hôpitaux et des dizaines d'autres traités sur le site, a indiqué le Croissant Rouge palestinien. La police israélienne fait état de 3 blessés dans ses rangs. Environ 400 personnes ont été arrêtées selon le club des prisonniers palestiniens. En Chine, des habitants de Shanghai ont affronté des policiers qui les obligeaient à céder leurs appartements pour y isoler des personnes positives au coronavirus. La capitale économique fait face à sa plus grave flambée épidémique depuis le début de la pandémie. La quasi-totalité des 25 millions d'habitants sont confinés depuis début avril avec des difficultés d'accès à la nourriture. La Corée du Nord a commémoré ce vendredi l'anniversaire de Kim Il-sung, fondateur du pays, diffusant des images des célébrations en l'absence de tout défilé militaire. Le 15 avril, jour du soleil, constitue l'une des dates les plus importantes du calendrier de Pyongyang. L'actuel dirigeant Kim Jong-un est le petit-fils de Kim Il-sung. Et en Iran, les gardiens de la révolution ont annoncé avoir saisi un navire de contrebande de carburant dans le golfe et arrêté ses 7 membres d'équipage. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans La Minute Éco, présentée par Mouamadou Oumfa.
Le département d'État américain a approuvé jeudi une vente d'hélicoptères d'attaque au Nigeria pour près $1 milliard. Cette vente va permettre de mieux équiper le Nigeria pour promouvoir la stabilité régionale et renforcer l'interopérabilité avec les États-Unis et d'autres partenaires occidentaux, a précisé dans un communiqué l'Agence de coopération sécuritaire américaine. Le groupe bancaire britannique Standard Chartered Bank a annoncé hier qu'il se désengage de 7 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, dont le Cameroun, l'Angola, la Gambie, la Jordanie, le Liban, la Sierra Leone et le Zimbabwe. Selon investirocameroun.com, ce départ consécutif à l'ambition du groupe de se concentrer sur des marchés plus rentables et à croissance plus rapide devrait prendre la forme de cessions d'actifs. La société américaine de covoiturage Uber a annoncé hier avoir suspendu ses activités en Tanzanie. Dans un communiqué, Uber a déclaré que cette décision se maintiendra jusqu'à ce qu'elle trouve un accord avec les autorités locales. Dans son communiqué, Uber indique que la réglementation actuelle dans le secteur tanzanien des transports a créé un environnement qui n'est pas convivial et a été un défi pour l'entreprise, sans plus de détails.
À présent, les sports présentés par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir à tous. On commence par les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. À partir de ce vendredi, en phase aller à Alger, l'entente Sétif d'Algérie reçoit l'Espérance de Tunis. Demain samedi à Luanda, Petro Luanda jouera contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Au Caire, Al Ahly d'Égypte reçoit le Raja Casablanca et à Alger, duel entre le Chebab Belouizdad d'Algérie et le Wydad Casablanca du Maroc. Les matchs retour sont prévus à partir du 22 avril prochain. En Angleterre, toujours en football, moins d'une semaine après leur duel en championnat, 2 buts partout, Manchester City et Liverpool se retrouvent demain samedi pour une demi-finale de Coupe d'Angleterre qui mettra fin au rêve d'immortalité d'un des deux clubs. Liverpool peut réaliser un exploit inédit dans l'histoire du football anglais, remporter les 4 trophées majeurs en une saison. Les Reds se sont déjà offerts la Coupe de la Ligue en février. Ils sont deuxième du championnat à 1 point du leader Manchester City, toujours en lice en Ligue des Champions, où ils affrontent Villarreal en demi-finale. Et en FA Cup, City a lui aussi un exploit à concrétiser puisqu'il peut devenir la 2e équipe anglaise de l'histoire à réaliser le triplé championnat Coupe Ligue des Champions après Manchester United en 98-99. Et puis enfin en basketball, la NBA a infligé jeudi une amende de $50,000 à l'attaquant des Charlotte Hornets, Miles Bridges, qui avait jeté son protège-dents dans le public après avoir été expulsé du match perdu mercredi contre les Atlanta Hawks. Et puis le meneur des Warriors de Golden State, Stephen Curry, s'est dit très optimiste jeudi concernant l'évolution de sa blessure au pied gauche, indiquant qu'il devait être de retour à temps pour le premier match des playoffs de sa franchise contre les Nuggets de Denver ce dimanche. Curry, qui n'avait plus joué depuis près d'un mois à cause d'une entorse ligamentaire au pied gauche, affirme sa volonté de ne pas rater une minute du retour des Warriors en playoff dans le podcast de son coéquipier Draymond Green.
Merci beaucoup Bagassi pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Les journalistes de l'agence tchadienne de presse et d'édition, un média d'État, sont descendus dans les rues ce vendredi pour exiger de meilleures conditions de vie et de travail. Ils ont été interceptés par des éléments de la police qui leur ont demandé de regagner leur rédaction pour donner une chance à la négociation. Le point avec André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique, à N'Djamena.
À bas la discrimination, à bas la maltraitance.
Vous pensez qu'il y a discrimination?
Oui, il y a discrimination.
À quel niveau? Avec l'ONAMA. Pourtant, nous avons les mêmes diplômes.
Qu'ils nous disent, il a de bénéfices.
C'est le ras-le-bol exprimé par les journalistes de l'agence tchadienne de presse et d'édition, ou ATPE, un média d'État, né en 1966. Ils pensent que leurs collègues de l'Office national des médias audiovisuels, en sigle ONAMA, sont mieux traités.
Eux, ils vont bénéficier des avantages.
Des subventions plus.
Mais nous, là, quel est le problème?
À chaque fois, ils disent qu'il n'y a pas de subvention de l'ATPE.
Nous ne sommes pas des individus ramassés dans la rue. Nous sommes aussi les agents de l'État. Nous avons le même droit que les autres.
12 milliards à l'ONAMA, on ne donne que 42 millions. Là, on n'a pas de question.
Ces agents n'entendent pas s'arrêter là. D'autres actions sont prévues dans les jours à venir si leurs revendications ne sont pas satisfaites.
Si nos indemnités ne sont pas versées, le spécial, ça serait hypothétique. C'est à l'occasion de l'an 1 de la disparition du maréchal du Tchad. Nous ne sabotons pas. C'est un moyen de pression.
Le 3 mai, la journée mondiale de la presse, nous allons marcher. Une autre marche encore est prévue pour le 10 mai, le jour de l'organisation du dialogue national. Le seul moyen de revendiquer ces droits au Tchad, là, c'est la marche.
Trop, c'est trop. La rue va nous gérer désormais.
Le directeur général adjoint de l'ATPE, Khalil Ibrahim Mahamad, trouve légitime la revendication du personnel qui, selon lui, tire le diable par la queue depuis 7 ans. Il rassure que le dossier est en bonne voie.
Le ministre de la Communication, il a pris le problème de l'ATPE là en charge pour discuter avec ses collègues pour trouver une solution de l'ATPE. Nous, en tant que direction générale de l'ATPE, ni le ministère, on n'est pas contre parce que c'est leur droit. Mais le ministre, il était clair pour dire que la marche, ce n'est pas une solution. Nous sommes dans une période très, très sensible. Et les deux, on a un autre dossier de 285 millions. Ça, c'est pour les arrêts de 2019 et pour les 2021. Pour le mois, c'est au ministère des Finances. Troisième, c'est la volonté de haute autorité de la République, même là, et pour prendre la garantie. Nous espérons que pour l'année 2022, là, on va trouver, Inch'Allah, une solution définitive pour le problème de l'ATPE.
Se montrant solidaire avec la croix des agents de l'ATPE, le président de l'Union des journalistes tchadiens, Abbas Mohamed Taye, rappelle les deux parties à privilégier le dialogue.
S'ils sont aujourd'hui sur la rue pour marcher et attirer l'attention, c'est qu'ils n'ont pas trouvé une réponse positive à leur réclamation. Moi, je pense toujours qu'il n'y a pas une autre alternative que le dialogue. J'appelle les deux parties de se retrouver et mettre sur la table toutes les questions pour trouver une solution, pour ne pas priver le public de son droit à l'information.
Une manifestation non autorisée, mais la police nationale a été gentille cette fois-ci en demandant calmement aux marcheurs de regagner leur rédaction, faisant ainsi l'économie des grenades lacrymogènes. André Kodmadjingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
L'épidémie de coronavirus au Cameroun a accéléré la mise en place d'un programme gouvernemental pour les nombreux enfants des rues. Environ 3000 enfants sans abri doivent être réunis avec leurs familles ou recevoir une formation professionnelle, y compris des orphelins et demandeurs d'asile de la Centrafrique voisine. Reportage à Yaoundé de Moki Edwin Kinzeka, récit Claire Moragibour.
Henri Nyambi Dikoso, directeur de la Solidarité nationale au ministère camerounais des Affaires sociales, dirige un groupe de travailleurs sociaux et de personnel hospitalier qui s'occupe de centaines d'enfants de la rue à Yaoundé, car le Covid-19 s'est propagé dans le pays.
La plupart de ces jeunes garçons ont perdu leurs parents. Au nord, on leur a dit que la vie ici au Grand Sud, à Yaoundé ou à Douala, est plus facile. C'est comme ça qu'ils se retrouvent donc ici, pas de domicile, pas de revenus, rien. Ils se mettent à voler, dorment dans les rues, sans abri. Et puis, quand ils se retrouvent ici seuls, ne sachant quoi faire, ils ne peuvent que vadrouiller et voler. Ils se retrouvent en train de dormir partout.
Safia Djamila, 17 ans, fait partie des enfants qui ont accepté de quitter la rue. Elle dit qu'elle est seule depuis 3 ans, vivant de dons et des restes de nourriture des restaurants. Jamila dit qu'elle a fui sa maison familiale dans la ville septentrionale de Mokolo lorsque sa mère est morte. Son père s'est remis en ménage avec une autre femme qui l'agressait et refusait de l'envoyer à l'école.
La question des enfants de la rue est une question importante et relève de la responsabilité à la fois collective et parentale. Et nous demandons à tous les parents de veiller à ce que les enfants restent plus à l'école et à la maison que dans la rue, parce qu'il y a deux catégories des enfants de la rue. La première catégorie, c'est des enfants qui restent permanemment en route. Et la deuxième catégorie, beaucoup plus facile à gérer, est constituée des enfants qui vont à l'école ou partent de la maison pour être dans nos rues. La responsabilité à la fois parentale et collective est convoquée.
Il y a 10 ans, il y avait 1 000 000 d'enfants de la rue, âgés de 4 à 17 ans, dans les villes de Yaoundé et de Douala, selon les autorités. Un chiffre qui est monté à plus de 10 000 lorsque la crise séparatiste a éclaté dans les régions anglophones et que le terrorisme s'est intensifié à la frontière nord du Cameroun avec le Nigeria. De nombreux demandeurs d'asile sont venus également de la République centrafricaine. Le Cameroun avait prévu de retirer au moins 3 000 enfants des rues avant la fin de cette année, mais la propagation du Covid-19 confirmée chez 655 Camerounais en un mois environ a accéléré la mise en place de ce programme. Marie-Thérèse Abena Ondoua, ministre de l'autonomisation des femmes et de la famille.
Aujourd'hui, le problème se pose même encore plus avec acuité parce que nous avons les nouvelles couches vulnérables. Au-delà des déplacés internes, nous avons les couches vulnérables traditionnelles, les jeunes filles. Il est question de lever toutes les barrières, toutes les menaces qui peuvent empêcher à ces enfants vulnérables d'aller à l'école. Nous avions les autorités traditionnelles, nous avions les autorités religieuses, nous avions les représentants des administrations. Il faut que tout le monde s'implique dans la promotion de l'éducation.
Pour la ministre, le nombre croissant d'enfants de la rue au Cameroun est dû à de multiples facteurs comme la pauvreté, les conflits, la désunion familiale et un taux élevé de divorce, mais aussi l'analphabétisme, l'exode rural et les mariages précoces.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La police de l'État américain du Michigan a déclaré que Patrick Lioya, un immigrant congolais de 26 ans, conduisait une voiture dont la plaque d'immatriculation ne correspondait pas au véhicule et c'est pourquoi il a été arrêté. Mais il s'en est suivi une fusillade mortelle impliquant la police. Un reportage de Laurel Bowman, récit Abdourahman Dia.
Hey, stay in the car.
Hey, restez dans la voiture.
Stay in the car.
Restez dans la voiture.
La vidéo est difficile à regarder. L'immigrant congolais Patrick Lioya, confus, se tient devant sa voiture alors qu'un policier du Michigan s'approche. Il court, une bagarre s'ensuit. Et ici, l'officier est au-dessus de son corps sans vie après lui avoir tiré une balle dans la tête. Selon la police locale, le jeune homme de 26 ans a été arrêté pour une infraction au code de la route. Les membres de sa famille s'expriment. D'abord son père, Pete Lioya, puis sa mère, Dorcas Lioya.
C'est pourquoi on a joué comme apa moyenchi.
I didn't know that here in America,
kunaweza kuwa execution ya mtu kwa kumuua.
There can be an execution stand to kill someone.
Je ne savais pas qu'ici en Amérique, on pouvait exécuter quelqu'un comme ça, tuer quelqu'un avec une arme à feu et être tué par un policier. Et mon souhait maintenant est que vous soyez en sécurité si vous rencontrez un policier en Amérique.
Quand nous avons fui la guerre du Congo parce que nous étions dans une zone qui n'était pas sûre, il y avait une guerre, et je pensais que j'étais venu dans un pays sûr, un refuge, un endroit sûr, et je suis surprise que mon fils ait été tué par balle.
Le policier qui a tiré sur Patrick est en congé payé. Son nom n'a pas été divulgué. Eric Winstrom est le chef de la police de Grand Rapids.
Il y a toute une enquête menée par la police à laquelle je n'ai pas accès pour éviter tout conflit d'intérêts. Je ne prendrai pas de décision politique et je n'arriverai pas non plus à une conclusion qui concerne le droit pénal pour le moment.
L'avocat de la famille, Ben Crump, veut que l'officier soit inculpé et poursuivi.
Nos dirigeants aux États-Unis d'Amérique.
We are condemning Russian soldiers.
Condamne les soldats russes.
Shooting civilians. In Ukraine. In the back of the head.
Pour avoir tiré sur la nuque des civils en Ukraine.
Et les manifestants sont descendus dans la rue pour réclamer justice. Brianna Pearson en fait partie.
Nous devons parler et il doit y avoir des changements qui doivent être apportés. Mais le changement ne se produira que si nos voix sont entendues.
La mort de Noirs entre les mains de la police en Amérique fait monter la tension, comme c'est le cas avec ce dernier incident. Rappelons le meurtre en 2020 de George Floyd par un policier du Minnesota qui a déclenché des manifestations pour la justice raciale à travers le pays.
Le monde célèbre aujourd'hui le Vendredi Saint, journée dédiée à la mort de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha pour le salut des hommes. Eddie Isango a joint à Kinshasa l'abbé Ogi Massiété, membre de la commission d'éducation chrétienne de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo.
Le Vendredi Saint nous rappelle ce jour mémorable où notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour racheter le monde. C'est ce jour où le Seigneur Jésus a subi injustement la mort. Et cela, il a aussi accepté volontairement, parce que c'est par ce sacrifice qu'il fallait passer pour que le monde soit sauvé, pour que le monde ait la vie. Et c'est cela que l'Église célèbre, parce que c'est même la source de notre foi. Ni c'était la croix, on ne serait pas sauvé. C'est par la croix de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et cette croix de Jésus, du coup, devient pour nous un modèle qu'il nous présente. Comme nous le célébrions hier jeudi, après le lavement des pieds, il a dit, je vous ai donné un exemple pour que vous puissiez faire comme j'ai fait. Et aujourd'hui, sur la croix, c'est cet exemple-là que le Seigneur nous donne, de se sacrifier, cet exemple de sacrifice pour les autres, pour que celui pour qui vous vous sacrifiez puisse bénéficier de la vie. Voilà un peu ce que nous pouvons comprendre par rapport à cette journée de vendredi. C'est une journée où l'Église commémore le sacrifice suprême de notre Seigneur Jésus-Christ pour le salut du monde.
Y a-t-il un message particulier pour ces jours et cette année particulièrement?
Bon, s'il y a un message particulier que nous pouvons donner pour ce jour, c'est justement ce message-là qui invite chacun, chacune d'entre nous à l'esprit de sacrifice. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup de personnes ne veulent pas se sacrifier pour autrui. Ils veulent aller de l'avant. Il n'y a pas de vie sans sacrifice. Et c'est ce modèle-là que Jésus veut nous donner. Et c'est ce message-là que nous voulons lancer au monde, que nous puissions apprendre nous aussi à nous sacrifier. Si nous voulons rendre un bon service, il n'y a pas un bon service sans sacrifice. C'est ça le message que moi je peux lancer aujourd'hui au monde et à ceux qui nous suivent en ce moment.
Vous êtes catholique, vous êtes chrétien, et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ne sont pas de la même religion ou de même croyance que vous au séjour?
Oui, bon, c'est vrai, nous avons nos rites. Ce qui nous unit tous, c'est le fait que Jésus est mort sur la croix. Ça, au moins, c'est une vérité. Et c'est par le sang de Jésus que nous sommes sauvés. Et ce jour-ci doit être un jour très, très vénéré par toute personne qui croit en Jésus.
L'abbé Ogi Massiété de la CENCO était joint à Kinshasa. C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Georges Léonard Sagno. À la présentation, Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et